Nous allons lire ensemble dans la lettre de Paul aux Romains. Lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12. Les 10 premiers versets. Romains chapitre 12. Les 10 premiers versets. Alors nous irons même jusqu'au verset 16. Verset 16. Je lis donc au verset 1er. Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, au service, au diaconat, s'attache à son diaconat, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui le donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez ou communiez, participez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Poursuivez l'hospitalité de tout votre cœur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'église locale, une communauté de service. Nous avons introduit notre sujet hier soir en considérant l'église locale tout d'abord comme une communauté en Christ. Et nous avons donc essayé hier soir de comprendre un peu sur un plan très général ce qu'est l'église locale et son importance. Nous l'avons fait pour inscrire le thème qui va nous intéresser jusqu'à demain matin dans une juste perspective. Celle donc du service. Quelle est la devise du véritable croyant, du véritable disciple de Jésus-Christ? On en trouve une Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 9, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir en attendant. Sauvés pour servir et pour servir le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Et nous servons en attendant son retour, en attendant de le rejoindre. Ce qui donne un dynamisme à notre service, une juste perspective. Sauver pour servir en attendant. Dans une église, et je veux parler là d'abord d'un bâtiment de Francfort, existait une magnifique statue avant la dernière guerre représentant le Christ. Et vous savez certainement que durant la Deuxième Guerre mondiale, Francfort fut l'objet, d'ailleurs comme toute une partie de l'Allemagne, de terribles bombardements. Et il arriva ce qui devait arriver, à savoir qu'à la fin de la guerre, cette statue qui essayait de représenter Christ n'avait plus de main. Et cela troubla un bon nombre de sculpteurs qui firent des offres pour refaire à cette statue de nouvelles mains, de manière à ce que personne ne puisse s'apercevoir de la différence entre cette statue d'après-guerre et la statue d'origine d'avant-guerre. Les membres de cette église furent sollicités pour examiner les différentes propositions des sculpteurs. Et ils déclinèrent toutes les offres, l'une après l'autre. Et finalement, ils décidèrent que la statue serait remise à sa place sans ses mains. Et on ajouta simplement cette petite inscription, je suppose sous la statue. Christ n'a point de mains, sinon les nôtres. Christ n'a point de mains, sinon les nôtres. Toujours dans le même ordre d'idées, je pense à cette célèbre missionnaire en Chine, Ruth Paxson, qui, pendant la première partie de ce siècle, a eu l'occasion de raconter l'histoire d'une femme qu'elle avait rencontrée à bord d'un train en Finlande. Et la première chose que Ruth Paxson remarqua, c'était le visage particulièrement radieux de cette personne. Puis, en y regardant d'un peu plus près, elle se rendit compte que la femme en question avait une sorte de crochet d'acier à la place de sa main droite. Alors, elles entrèrent en conversation et au cours de la discussion, Ruth Paxson apprit que cette dame avait été missionnaire en Inde et qu'elle y avait contracté une maladie pulmonaire grave, qu'il avait obligé finalement à rentrer en Finlande, où elle avait acheté une ferme. Et c'est un jour, en travaillant sur sa batteuse, que sa main droite fut sectionnée. Et elle continua son entretien et son explication en disant à Ruth Paxson ceci: quand ma main fut coupée, j'ai aussitôt regardé à mon Seigneur et je lui ai dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant que ma main droite n'est plus? Quel travail? Je ne te demande pas pourquoi, mais pour quoi? Et Dieu utilisa cette femme plus tard pour changer sa ferme en foyer pour chrétiens âgés. Et de la part de Dieu, elle procura à ces personnes âgées bien des bénédictions. Parce qu'au lieu de se focaliser sur sa souffrance, sur son amputation, au lieu de se laisser creuser une dépression profonde dans son cœur, en se mobilisant sur le pourquoi, elle préféra demander au Seigneur pourquoi, dans quel but, que me réserves-tu comme nouvelle forme de service, puisque tu as permis que je sois dans cet état. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous l'avons laissé entendre hier soir, à l'instant même de notre régénération, c'est-à-dire de notre naissance d'en haut, du démarrage de notre vie nouvelle, à l'instant même de notre authentique conversion, avec ce bouleversement intérieur que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire ce changement jusque dans les fibres les plus profondes de notre personnalité, de notre mentalité, où nous nous mettons à haïr ce que nous aimions jadis, et où nous nous mettons à aimer ce que nous haïssions jadis, à l'instant même de notre régénération par le Saint-Esprit. Nous sommes, dit la Bible, intégrés au corps de Christ, à l'Église de Jésus-Christ. Ceci nous est dit très fortement dans un passage clé d'un Corinthiens 12, dans les versets 12 et 13, que je lis, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et alors là revient l'expression que nous avons étudiée longuement hier, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et Paul aurait pu ajouter, soit homme, soit femme, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il y a plusieurs grandes affirmations dans ce texte. Tout d'abord, il nous est dit que nous avons tous, je dis bien tous, ce n'est pas mon invention, c'est le texte de la Bible tel quel, nous avons tous été baptisés, en effet, dans un seul esprit. L'apôtre Paul s'adressait à l'église de Jésus-Christ dans la ville de Corinthe, une immense cité, peut-être 800 000 habitants, capitale d'une grande province de la Grèce, une église en plein développement, et il ne faisait aucune distinction entre les disciples de Jésus-Christ dans l'église de Corinthe. Vous remarquerez qu'il ne disait pas « Certains d'entre vous ont été baptisés dans un seul esprit, les autres ne l'ont pas encore été. » Il les rangeait tous dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il considérait que tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ personnellement dans leur vie avaient obligatoirement été baptisés dans un seul esprit. Cela sous-entend, parce que d'autres textes le disent clairement, que dans les Écritures, être baptisé dans le Saint-Esprit correspond exactement à l'instant même de notre nouvelle naissance. Et nous devons ici, simplement et respectueusement devant Dieu, nous tenir dans la fidélité aux Écritures. Et j'enfonce le clou. J'enfonce le clou simplement parce qu'il nous est dit dans ce texte que toutes ces personnes, tous ces membres de l'église de Jésus-Christ à Corinthe avaient donc été baptisés dans un seul et même esprit, et qu'au moment même où ils avaient été baptisés dans ce seul et même esprit, ils avaient été intégrés dans le corps de Christ. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit, qui est en réalité dans les Écritures notre union avec Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, nous nous identifions à Jésus-Christ, nous faisons un avec Jésus-Christ. Non seulement il est mort pour moi, mais je suis mort avec lui. Non seulement il a été enseveli pour moi, mais j'ai été enseveli avec lui. Non seulement il est ressuscité pour moi, mais je suis ressuscité, j'ai reçu une vie nouvelle qui est sa vie de résurrection. Et au moment même où ce miracle a eu lieu, j'ai été immédiatement, en un atome de temps, intégré, uni au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Église de Jésus-Christ. Voyez qu'il y a donc un certain nombre d'événements très importants qui sont concomitants, qui se passent en un clin d'œil en quelque sorte, qui correspondent tous au moment de notre régénération. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit parce que nous sommes régénérés et nous sommes immédiatement intégrés au corps de Christ. Il est impossible de prétendre être membre de l'Église de Jésus-Christ et de prétendre que l'on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est pas possible. Sinon, on s'oppose de plein fouet à une des plus grandes déclarations de l'apôtre Paul sur l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons ici être fidèles à l'Église de Jésus-Christ. Donc nous sommes intégrés au corps de Christ. Nous formons un seul corps. Et nous l'avons vu hier soir. À partir de cet instant même, nous sommes pressés par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous a immergés dans cette réalité du corps de Christ. C'est lui qui nous identifie à Jésus-Christ. C'est lui qui vient faire habiter en quelque sorte Christ en nous. Nous sommes pressés par le Saint-Esprit de nous identifier à la réalité locale de l'Église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas envie de rester seuls. Nous l'avons dit hier soir. Nous avons besoin de frères, de sœurs. Nous avons besoin d'être dans ce peuple des saints. Parce que un membre qui est sectionné, nous l'avons vu hier soir, va se nécroser, va pourrir très rapidement. La vie le quitte aussitôt. Un croyant demandait un jour à un pasteur, peut-on être chrétien sans pour cela appartenir à une assemblée? Et le pasteur de répondre, oui, bien sûr, vous pouvez. Mais le problème, c'est qu'alors vous ressemblez à un soldat qui refuse de suivre son régiment, à un écolier qui ne veut pas aller en classe, à une abeille sans ruche, à un rugbyman sans équipe ou à un ambassadeur sur une île déserte. Vous avez déjà vu un bateau? Nous avons tous vu des bateaux. Qu'est-ce que c'est qu'un bateau? C'est un assemblage d'un certain nombre de pièces, pour certaines d'entre elles excessivement lourdes, qui, isolées les unes des autres, pour la plupart d'entre elles vont couler. Elles coulent. Et pourtant, lorsqu'elles sont assemblées ensemble selon un certain nombre de lois, elles forment le bateau qui flotte et qui va quelque part. Avant notre régénération, nous étions les pièces de ce bateau, dissociées, éclatées, loin les uns des autres. Et nous coulions, sans espoir, sans aucune espérance, dans l'errance de notre péché. Et puis le miracle a eu lieu. Nous avons rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ est entré dans nos vies, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons été intégrés à ce corps et désormais nous formons ensemble le bateau. Et au lieu de nous enfoncer, ensemble, nous sommes en marche, nous allons dans une direction vers un port où le Seigneur nous attend. Et j'aimerais ici dire que dans la mesure où nous sommes membres d'un corps dans sa réalité locale, nous sommes les uns et les autres, vous et moi, dans nos églises locales respectives, responsables de la bonne marche de l'église locale. Vous savez, c'est trop facile d'être toujours en train de critiquer les responsables. Il est beaucoup plus facile de critiquer que d'aider. Et c'est souvent parce que nous avons une mauvaise vision de l'Église locale que nous avons la dent dure vis-à-vis de l'Église locale, comme si nous n'en faisions pas partie. Quelqu'un, avant-hier, me parlait en utilisant l'expression « votre association ». Et je lui ai répondu, mais je vous rappelle que c'est aussi la vôtre parce que vous en êtes membre. Et effectivement, cette personne était membre. Mais dans certaines situations, c'est tellement facile de dire « vous ». Il y a des anciens qui appartiennent à un conseil d'église, à un conseil d'anciens, et qui, quand ça chauffe, parlent de « vous » au lieu de dire « nous ». Je suis responsable de la marche de l'église locale à laquelle j'appartiens. Je pense à cette église, c'est une histoire vraie, à cette église qui se mourait. Tout le monde se plaignait. On se plaignait en particulier des responsables, enfin chacun se plaignait de l'autre. Tout le monde était riche en critiques mordantes, acerbes. Et les responsables de cette église ne savaient absolument pas quoi faire pour remédier à cette situation, jusqu'au jour où ils eurent une idée ingénieuse. Voilà que les membres de cette église, en allant faire leurs courses, en allant à leur travail, à leur bureau, que sais-je encore, ont vu fleurir, à certains endroits bien précis de leur cité, des petits papillons annonçant un décès. Alors ils font ce qu'on fait tous, hein, ils ont fait ce qu'on fait tous, ils sont allés fourrer leur nez de plus près pour voir quelle était cette annonce nécrologique. Et à leur grande stupéfaction, ils ont découvert que sur ces petits papiers collés aux endroits bien adéquats de la cité figurait l'annonce de l'ensevelissement de leur église locale suite à une longue maladie douloureuse, à une mort à telle date. Et tout le monde était donc invité à venir vivre ce moment de l'ensevelissement. Alors vous imaginez un petit peu que les membres de l'église ont été très intrigués, ils se sentaient très concernés. Inutile de vous dire que, au jour et à l'heure dite de la cérémonie d'ensevelissement, il ne manquait pas un membre de l'église locale. Même ceux qui n'étaient plus venus depuis 6 mois étaient là, bien en place et bien fagotés, comme on dit chez nous. Et quand ils sont entrés dans l'église, ils ont tout d'abord vu, à leur grande stupéfaction, un cercueil. Et comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde, ce cercueil était ouvert, il était là, devant l'estrade et la chaire du prédicateur. Alors il y eut une cérémonie extraordinaire, des discours incroyables, sur le passé de cette église, etc., etc. On a chanté les plus beaux cantiques qu'on chante lorsqu'il y a un ensevelissement. Et vers la fin de la cérémonie, le président de cette cérémonie a invité simplement les membres de l'église locale à bien vouloir s'avancer pour dire un au revoir à la morte avant que l'on visse le couvercle du cercueil et que l'on emmène le cercueil au cimetière. Alors les membres de l'église se sont levés, quelque peu mal à l'aise dans leur peau, c'est pas le moment le plus intéressant qui soit, mais enfin ils étaient quand même très curieux. Et chacun d'entre eux qui arrivait devant le cercueil découvrait simplement au fond du cercueil rien d'autre qu'un miroir. Un miroir. Et il avait donc le privilège de contempler son joli petit minois au fond du cercueil. Mes amis, tous ses amis sont rentrés chez eux avec un paquet de réflexions à remuer dans leur tête. Et c'est ce qui a été à l'origine d'un changement dans cette église locale. Le message était simple. La morte, c'est vous. Et c'est vous qui avez fait de cette église locale ce qu'elle est devenue.
Vous êtes responsable. C'est trop simple de dire simplement que c'est un tel, ou le conseil d'anciens, ou le pasteur, ou que sais-je encore. Je suis responsable de l'église locale à laquelle j'appartiens. Nous entrons donc dans la réalité locale de ce corps de Christ pour y exercer une fonction, pour y exercer des services précis. Quelqu'un a dit que l'église locale n'était pas un cercle intellectuel, un groupe d'adultes rassemblés dans une salle de cours pour écouter une conférence donnée par un professeur de religion. C'est important. Ceux d'entre nous qui pourraient penser que l'église, ce n'est qu'un séminaire comme celui que nous vivons durant ce week-end, et qui donc viennent systématiquement dans l'église locale pour faire toujours la même prière. Seigneur, bénis le prédicateur. Nous sommes venus pour recevoir. Parce qu'il y a des croyants qui ne conçoivent l'église locale que comme une sorte d'arrosage permanent du haut d'une chaire. Et qui, même à l'heure de la louange le dimanche matin, lorsque nous sommes là pour adorer le Seigneur et pour nous prosterner devant lui, leur première préoccupation, Seigneur, qu'est-ce que je vais recevoir ? N'est-ce pas ? Quelqu'un d'autre a souligné aussi que l'église n'est pas une salle d'attente de troisième ou de deuxième classe où l'on se tourne les pouces en attendant un logement de première classe au ciel. C'est une nouvelle communauté dynamique, séduisante, attrayante, dotée d'une signification éternelle dans le dessein de Dieu. La Bible montre clairement que l'église est le but fixé par Dieu pour les hommes, mais un but dans lequel tous ses composants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, sont activement engagés dans un service. Quels sont les buts de ces services ? La croissance quantitative et la croissance qualitative de l'église locale. Quantitative, c'est-à-dire tout d'abord par l'évangélisation. Quelqu'un a écrit dans un petit livre remarquable sur l'évangélisation totale, c'est quelques mots, la croissance de tout mouvement est proportionnelle à sa capacité de mobiliser la totalité de ses membres dans l'évangélisation permanente. L'évangélisation n'est pas l'affaire de spécialistes. L'évangélisation, c'est l'affaire de toute l'église locale. L'évangélisation est un service de la totalité de l'église locale. Oh, bien sûr! Chacun n'est pas appelé à évangéliser de la même manière. Nous avons des personnalités différentes. Comme nous allons le voir, nous avons des dons différents. Nous avons des histoires différentes. Nous avons des lieux de travail différents. Tout cela va jouer dans notre manière de présenter l'évangile à nos contemporains. Mais heureuse l'Église dans laquelle chacun a compris qu'il est engagé dans ce service personnel de l'évangélisation permanente. Croissance qualitative, notamment dans le domaine de l'édification par l'exercice d'un certain nombre de dons. Pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce que aussi le don de soi, le service, est une source de joie. C'est une source de progrès. C'est aussi une source d'épanouissement, disons-le, pour celui qui sert. Vous savez, nous vivons une époque qu'on appelle hédoniste, c'est-à-dire centrée sur les plaisirs et sur la préoccupation de soi. C'est fou ce que le nombril de l'homme l'intéresse à l'heure actuelle, sauf quand il s'agit de servir dans l'église locale. Il existe une multitude de livres évangéliques maintenant, j'ose dire bientôt multitude, tellement il y en a, qui traitent des problèmes psychologiques du chrétien. Vous avez toutes les recettes possibles et imaginables pour essayer d'être bien dans votre peau en tant que disciple de Christ. Mais généralement, on oublie une des recettes principales, c'est le don de soi. C'est précisément de cesser de me préoccuper de moi-même pour me tourner Je dirais dans un sens vers les besoins du Seigneur. Entrer dans les besoins de Dieu et vers les besoins de mes contemporains. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas vrai? Il y a plus de bonheur à donner des coups qu'à en recevoir, n'est-ce pas? Hélas, c'est aussi vrai dans ce sens. Mais ça, c'est un autre thème. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai souvent raconté l'histoire de ce croyant qui fit un songe. Je suis très prudent en ce qui concerne ce monde des rêves et des songes. Je crois qu'il y a un abus monstrueux à l'heure actuelle et qui fait qu'un certain nombre de croyants, pourtant bien intentionnés, qui ont soif de marcher avec le Seigneur, ont une malheureuse tendance à essayer tous les matins de comprendre ce qui s'est caché derrière les rêves qu'ils ont faits pendant la nuit. Et ça, c'est profondément regrettable et dangereux. La Bible nous invite à être très prudents dans ce domaine. Mais il peut arriver, exceptionnellement dans notre vie, qu'ici et là, dans sa grâce, dans une situation toute particulière, Dieu permette que nous fassions un songe. Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois peut-être dans mes 35, bientôt 40 ans de vie avec Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a une différence. Il y a une différence de consistance. Il y a une cohérence quand Dieu parle. Il y a un accord avec sa parole. Ce n'est pas du décousu. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des espèces d'interprétations où tout est tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Dieu vous la donne, l'interprétation. Et ce songe entre tout à fait dans ce cadre. Vous allez d'ailleurs comprendre tout de suite pourquoi. C'est un croyant qui, dans son songe, voit un restaurant. Et dans ce restaurant, il voit 2 salles de restaurant côte à côte. Ça, c'est ce qui est possible quand on songe, n'est-ce pas? Ou quand on rêve. Mais enfin, ça se tient. Et il voit les gens qui entrent dans le bâtiment et qui, les uns, vont vers une des pièces, les autres vont vers l'autre. Sur chacune des portes d'entrée de ces 2 salles de festin, figure une petite indication, une petite affichette là, sur laquelle ces personnes peuvent lire que chacun est prié d'utiliser, de vivre ce festin selon les règles de la bienséance, de la bonne conduite. Quelque peu choquant. Les gens rentrent, s'installent. Dans chacune de ces salles, il y a une table magnifiquement garnie, les couverts sont dressés, il y a là déjà de quoi vous encourager, vous ouvrir l'appétit. Les gens s'installent, et il arrive un moment où le festin commence, et notre croyant voit dans son rêve le festin commencer dans chacune des 2 salles. Et à ce moment-là, ces gens qui prennent leur couvert découvrent quelque chose qui leur reste en travers du gosier. Les fourchettes font plus 1 mètre de long. Alors dans une des salles, on essaye tant bien que mal de se nourrir, et puis n'y réussissant pas, les gens appellent le maître d'hôtel, les serveurs, ils demandent le cahier des doléances, et d'autres partent en claquant la porte. Enfin, c'est le dépit, c'est une atmosphère terrible. Et cette première salle de festin se vide très rapidement. Mais dans son rêve, notre croyant voit aussi l'autre salle. Et dans l'autre salle, effectivement, il y a eu d'abord un temps de flottement, où chacun a essayé de se nourrir comme il pouvait, mais très rapidement, chacun s'est rendu compte qu'avec ses fourchettes, qu'il fallait tenir selon les règles de la bienséance. Alors là, on commençait à comprendre le sens des affiches. Pas question de prendre comme les petits-enfants, hein, prennent leur petite cuillère. Et finalement, au bout d'un moment, l'un des convives regarde celui qui est en face de lui et lui dit « Écoute, mon ami, ouvre ta bouche. » L'autre est un peu interloqué, ouvre ta bouche simplement. Alors l'autre ouvre tout grand son bec, et celui qui est en face de lui enfourner avec sa fourchette quelque chose qui aussitôt amène un immense éclat de rire. Et tout le monde se met à cesser de se préoccuper de lui-même et dit à son voisin d'en face, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Vous imaginez quel concert de rire et de joie dans cette salle. Mes amis, il existe et des églises locales de ces deux genres et des croyants à titre personnel de ces deux genres. De ces croyants toujours tournés vers eux-mêmes, qui racontent à qui veut l'entendre, du matin au soir et du soir au matin, leurs problèmes. Et qui n'en sortent pas. Et qui finissent même par s'inventer des problèmes. Là où d'autres, c'est vrai, ont leur lot de souffrances, leur combat, parce que c'est le propre de tout disciple de Jésus-Christ, mais sont tout d'abord préoccupés du bien-être de celui, de celle qui est en face d'eux. Et Dieu nous pose la question cet après-midi, mais de quel côté sommes-nous? Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de lire le beau livre « La cité de la joie » de Dominique Lapierre. On en a fait d'ailleurs un film, et en conclusion du film, vous avez sur l'écran une indication qui est l'en-tête du livre, c'est la dernière phrase, et pour une fois c'est une belle conclusion de film, c'est rare aujourd'hui. Et figurez-vous que ce que les gens qui viennent voir le film peuvent voir en dernier, c'est une petite phrase, je vous la livre telle qu'elle. « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et ça c'est une parole qui est mise dans la bouche du principal personnage du livre, un tireur de pousse-pousse, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Vous connaissez Haroun Taziev, le célèbre vulcanologue. J'ai entendu un jour un interview d'Haroun Taziev qui était très intéressant. Cet homme a bourlingué de par le monde. Il a été associé à de multiples expéditions. Il a vécu parfois dans une promiscuité assez difficile à vivre sur les pentes de certains volcans avec des équipes de vulcanologues, de scientifiques, de toutes sortes de pays, de cultures très différentes de la sienne, et tout cela n'était pas facile. Et dans un interview, on lui a posé la question, mais d'après vous, monsieur Taziev, quel est le secret du bonheur? Comment est-ce que vous avez réussi à vivre dans ces situations de tension si difficiles, avec des équipes de gens si différents de vous? Et ce scientifique de répondre, le secret du bonheur, c'est de penser à l'autre avant de penser à soi. Penser à l'autre avant de penser à soi. Je ne veux pas dire que nous ne devions que penser à l'autre. En tout cas, il est un domaine où il nous faut penser à nous. C'est tout d'abord celui de notre nouvelle naissance, celui de notre salut. Il importe que chacun d'entre nous ait la certitude d'une juste relation avec son Dieu, la certitude d'une destination finale qui soit glorieuse et belle pour lui. Oui, c'est vrai. Il importe que nous veillions dans notre vie avec Jésus-Christ à un équilibre, que nous nourrissions notre vie spirituelle, que nous passions du temps dans les Écritures, dans la prière. Mais il importe aussi, et c'est fondamental, que nous soyons tournés vers les besoins des autres. C'est le prédicateur Spurgeon que je citais hier soir qui écrivit ceci. « Je crois sincèrement que beaucoup de ceux qui sont tourmentés par toutes sortes de doutes en souffriraient à peine s'ils faisaient quelque chose pour leur merveilleux sauveur. Un vêtement qu'on ne porte pas peut être rongé par les mythes. Ainsi, beaucoup de gens sont rongés par les mythes du doute parce qu'ils ne s'engagent pas activement dans le service du Seigneur. Un outil ne risque pas de rouiller aussi longtemps qu'il est utilisé. Il en est de même pour nous. Des évangélistes comme Calvin et d'autres n'ont guère été tourmentés par les doutes et les craintes. Ils étaient bien trop occupés à défendre la foi pour avoir le temps de se laisser accabler par des doutes. Voyant la misère du monde et la puissance du péché, ils servaient le Seigneur avec zèle et annonçaient le salut aux perdus. C'est ainsi que leur foi s'affermissait de plus en plus. quand vous consacrerez vos forces à l'œuvre du Seigneur, vous serez libérés de vos doutes. Ainsi, et je termine cette première partie, l'Église locale est ce que j'appellerai cet après-midi une communauté d'actionnaires de l'amour. Et j'utilise volontairement cette expression « actionnaire de l'amour » parce qu'on parle continuellement des cours, de la bourse, des actions, n'est-ce pas ? Et vous savez qu'un tas de gens, chaque jour, risquent leur fortune au yo-yo de la bourse. Combien d'infarctus, tous les jours dans le monde, à cause de cette fragilité du marché boursier et des gens qui ont trop engagé, qui perdaient leur fortune et leur vie de cette manière ? Mais le principe de la bourse, vous le savez, bon, c'est assez compliqué, mais vous vous investissez, vous vous donnez, vous participez, vous devenez actionnaire, vous acceptez de donner en quelque sorte une partie de votre argent, vous le mettez au service de tout un ensemble et vous espérez en tirer des dividendes ensuite. Je l'ai dit, c'est très risqué. Beaucoup y ont perdu leur santé. Alors que dans l'Église de Jésus-Christ, être actionnaire de l'amour, ça ne comporte aucun risque grave. C'est vrai que nous prenons des coups. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que nous sommes en but à l'offensive de la puissance des ténèbres. Mais en tout cas, nous savons que lorsque nous donnons, lorsque nous retournons en quelque sorte de cette manière au Seigneur, toute une partie de ce qu'il nous a donné, lui le premier, nous ne sommes jamais perdants. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ sont-ils si peu engagés? Pourquoi sont-ils si peu actionnaires alors que ce sont des investissements à long terme qui seront merveilleusement fructueux? Si ce n'était pas sur le cas sur la terre, ce serait de toute manière le cas dans les cieux. Alors venons maintenant à partir de là à l'étude des grands principes concernant les dons spirituels. Mais nous avons donné une note à nouveau ce soir pour que chacun d'entre nous se sente particulièrement concerné. Les dons spirituels. Sujet important, mais, et je le précise d'emblée, tout de suite, beaucoup moins important que ce que Dieu appelle dans les Écritures le fruit de l'Esprit. Je n'ai pas dit les fruits de l'Esprit. J'ai dit le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Vous connaissez cet extraordinaire texte, extrêmement dense, un seul verset, mais qui est une sorte de miniature extraordinaire, à la fois du caractère de Jésus-Christ, qui doit donc se reproduire dans la personne du disciple de Jésus-Christ. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous allons le voir, je le dis d'emblée, ce qui doit nous préoccuper de prime abord, et vraiment en priorité, c'est le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit est présent, je dirais, de la première à la dernière page de notre Bible, continuellement. Déjà dans l'Ancienne Alliance, à la mode du langage de l'Ancienne Alliance, si vous voulez, il est question du fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est un sujet donc important, directement abordé dans une centaine de versets du Nouveau Testament, essentiellement dans les épîtres de Paul, plus au début de
d'une manière particulière de la partie pratique des deux grandes épîtres, à savoir Romains et Éphésiens. Ça, c'est une des particularités. C'est que dès que l'apôtre Paul aborde la partie pratique de ses épîtres aux Romains et aux Éphésiens, qui sont deux épîtres capitales, il faut savoir, n'est-ce pas, que toute la Bible est importante. Mais il y a dans les Écritures des livres qui ont une importance tout à fait particulière parce qu'ils sont d'une manière spéciale des exposés fondamentaux de l'essentiel de la doctrine chrétienne. L'épître aux Romains en est un. Elle était adressée, ce n'est pas pour rien, aux chrétiens qui résidaient dans la capitale de l'Empire. Et Dieu a tenu à ce que l'église de Jésus-Christ à Rome, dans la capitale de l'Empire, ait un enseignement extrêmement solide, magistral, capital, systématique, bien construit. Et il n'y a pas dans le Nouveau Testament d'épître aussi bien construite que l'épître aux Romains. Et curieusement, après 11 chapitres centrés sur ce qu'on appelle la philosophie du salut, les 8 premiers chapitres, le grand message du salut, puis la philosophie de l'histoire, l'histoire d'Israël en particulier, dans les chapitres 9 à 11, immédiatement quand Paul entre dans la partie pratique, par quoi est-ce qu'il commence ? Par l'exercice des dons. Dans l'épître aux Éphésiens, même chose, l'épître aux Éphésiens est adressée d'abord à l'église d'Éphèse, qui était la capitale d'Asie Mineure, qui était une ville très très stratégique, extrêmement importante, si vous voulez, en Turquie actuelle. Mais cet épître aux Éphésiens, en réalité, était une circulaire adressée à toutes les églises d'Asie mineure. En réalité, elle a été déposée à Éphèse. On a retrouvé des épîtres aux Éphésiens où, au lieu d'avoir l'indication épître aux Éphésiens, il y avait un blanc. Épître aux, puis il n'y avait rien. On a retrouvé des épîtres aux Éphésiens qui portaient un autre titre, qui était intitulé « Épître aux Laodicéens ». C'était le texte de l'épître aux Éphésiens, ce qui montre bien que c'était une lettre circulaire, très importante. Dieu avait voulu que l'apôtre Paul donne un message fondamental, notamment sur l'Église, à toute son Église, notamment en Turquie, en Asie mineure. Et là aussi, quand on ouvre le début de la partie pratique, au début donc du chapitre 4, par quoi est-ce qu'on commence ? Par un certain nombre de dons, on le verra, des dons hommes, des ministères très particuliers et très importants pour la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Faisons quelques remarques que nous prolongerons ce soir à partir de ce que nous venons de dire en introduction. Il y a dans le Nouveau Testament 4 grands passages sur les dons spirituels. 4 grands passages. Nous en avons lu un dans Romains 12, vous l'avez remarqué avec moi, hein, dans Romains 12 à partir du verset 6 essentiellement, puisque nous avons des dons différents, etc. Nous en avons un second, ou un deuxième plutôt, dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Pas dans 1 Corinthiens 12, pas dans 1 Corinthiens 14, mais dans 1 Corinthiens 12 à 14. C'est-à-dire que nous sommes tenus de lire et d'étudier les 3 chapitres comme s'ils n'en formaient qu'un seul. Nous n'avons pas le droit de bâtir une sorte de cloison entre chaque chapitre et de les considérer chacun indépendamment de l'autre. C'est très important, vous savez, je dis ces choses tout à fait volontairement, à cause de certaines mauvaises habitudes que nous pouvons avoir dans notre lecture de la Bible. 1 Corinthiens 12 à 14. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure dans Éphésiens 4, versets 7 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. Nous aurons l'occasion dans un moment d'en lire un extrait. Et puis, un tout petit texte, dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, et dans les versets 10 et 11, un tout petit texte de 2 versets, mais qui est un joyau extraordinaire, rempli de précisions très importantes sur les dons spirituels. Alors nous nous rappelons, hein, ces 4 passages, Romains 12, 1 à 8, Éphésiens 1 Corinthiens 12 à 14, Éphésiens 4, 7 à 16, et 1 Pierre 4, 10 et 11.
Quelle est la première constatation que nous ferons si nous prenons le soin de lire attentivement tous ces passages? Nous allons, peut-être pas forcément tout de suite, mais nous allons nous rendre compte d'un petit adverbe qui se retrouve systématiquement dans tous les textes. Vous savez, la Bible n'est pas inspirée simplement dans les idées. La Bible est inspirée verbalement, c'est-à-dire dans le mot, à condition que le mot de notre texte corresponde bien à un mot figurant dans le texte original, ici dans le texte grec du Nouveau Testament. Parfois, vous avez des prédicateurs qui donnent tout un message sur un mot, mais c'est dommage pour eux, le mot figure dans le texte français pour un certain nombre de raisons de style, mais il ne figure pas forcément dans le texte original. Il est arrivé que des prédicateurs donnent un message sur une virgule. Et la virgule ne figure pas dans le texte original. Les témoins de Jéhovah vous bâtissent des fausses doctrines en s'arrangeant soigneusement pour déplacer des virgules ou pour inventer des virgules dans le texte là où les virgules n'existent pas. Jésus qui dit à l'un des deux brigands, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors il y a deux manières de comprendre, hein. « Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis un jour. » Ou « Je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui ne veut pas dire la même chose, hein. Vous êtes d'accord, hein. Le maître dit, deux points, l'inspecteur est un âne. Le maître, dit l'inspecteur, est un âne. Vous voyez la différence? Alors les sectes se servent de ces divisions qu'elles fabriquent de toutes pièces pour vous raconter n'importe quoi. Vous voyez? Alors ici, dans notre étude, ce petit adverbe figure dans le texte original. Dieu s'est arrangé pour que l'apôtre Paul, tout comme Pierre, évoque ce petit mot, et vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, c'est très gênant, hein. C'est très gênant pour nous que ce petit mot figure dans le texte. Vous savez quel est ce petit mot? C'est le petit mot « chacun ». J'aime beaucoup donner cette série sur les dons spirituels, parce que personne ne peut écouter en disant « ce n'est pas pour moi ». Chacun. Regardez dans Romains au chapitre 12, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et Dieu a départi une mesure de foi à chacun précisément pour que chacun exerce un don. Remarquez, deux fois dans ce texte. Hein. Si nous allons dans 1 Corinthiens 12 à 14, 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 7, 1 Corinthiens 12, 7. Verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Et verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun, 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 chacun. Si vous allez dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 7, Éphésiens chapitre 4, verset 7, « Mais à chacun de nous, on reviendra sur ce texte, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et ensuite, il est question de l'exercice de certains dons. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Nous reviendrons, parce qu'il y a des jeux de mots là derrière même. Mais on ne veut pas les voir tout de suite. Enfin, 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11, dans ce joyau,
que nous aurons l'occasion de décortiquer quelque peu. On va prendre pour le moment verset 10, on reviendra sur les versets précédents un peu plus tard, comme de bons dispensateurs ou intendants, économes, des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hein, vous remarquez, hein? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, même le Seigneur Jésus en personne se joint à ce concert de chacun, puisque dans Matthieu 25, verset 15, dans la célèbre parabole des talents, nous aurons l'occasion de commenter quelque peu, Matthieu 25, verset 14 et 15, il est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ça, c'est le Christ qui monte au ciel, dans la gloire, à la droite du Père, qui répand le Saint-Esprit et qui distribue des dons. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième à chacun selon sa capacité. À chacun, vous remarquez, à chacun selon sa capacité. Il n'est pas dit qu'il en a donné aux uns et rien du tout aux autres, non. À chacun selon sa capacité. Dans Marc 13, 34, dans Marc chapitre 13, verset 34, on va lire au verset 33 déjà, Marc 13, 33, « Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Vous avez vu l'unité des Écritures ? Quand on me raconte que la Bible est un tissu de contradictions, mais la Bible est d'une unité fantastique. On se rend compte qu'il y a derrière les Écritures un cerveau, mais extraordinaire, qui a été capable de guider une 40aine d'écrivains sur entre 15 et 16 siècles pour qu'ils soient tous d'accord les uns avec les autres. Mais c'est extraordinaire ça. Chacun, 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 chacun. Chacun est donc comme une touche de machine à écrire. La machine à écrire étant l'église locale chargée d'écrire des lettres, chargée d'être une lettre de Christ, notamment au monde qui nous entoure. Vous avez essayé de lire le texte ? J'espère que non, hein ? J'ai essayé de lire le texte sur la petite feuille. Ah, mes amis, je pourrais vous raconter des histoires sur ce texte. Il m'arrive parfois de le faire projeter avec rétroprojecteur sur le mur devant l'église réunie. Et ça m'est arrivé une fois, un dimanche matin, dans une église de la région parisienne. Et les membres de l'église arrivaient dans l'église pour le culte du dimanche matin, et en entrant, ils voyaient ce qu'ils ne voyaient pas les autres dimanches. Ils voyaient sur le mur devant ce texte-là. Et ils venaient s'asseoir. J'étais assis simplement au premier rang, je me préparais pour le culte, et j'entendais les réflexions des membres de l'église. Et vous savez, mon épouse est d'origine polonaise. Et certains le savaient, alors ils jetaient un coup d'œil sur ce mur, ils voyaient ces lignes remplies de Z, et j'entendais quelqu'un derrière moi qui disait à quelqu'un d'autre, « Oh, mais ça, c'est du polonais. À tous les coups, sa femme est polonaise, donc c'est du polonais. » C'est pas du polonais, hein. C'est du bon français. Mais avec une machine qui n'a qu'une touche en panne. Vous remarquez ? Une touche. Si ça avait été écrit en malgache, hein, on aurait fait sauter le A. Hein. Ça aurait donné un de ces résultats fantastiques. Vous avez vu le résultat d'une touche qui fonctionne mal ? Une !
Imaginez que nous ajoutions maintenant une deuxième touche. Mes amis, plus l'église locale a des membres en grève, moins elle est lisible au monde qui l'entoure. Il faut que nous nous en souvenions. Si nous voulons être une lettre de Christ lisible au monde qui nous entoure, il faut que l'église locale, dans sa totalité, soit au service du Seigneur. Bien entendu, tout le monde ne sera pas dans les fantassins ou dans l'artillerie ou dans l'infanterie ou dans les commandos. Il n'est pas interdit d'être dans le train ou... Non, on va le voir, ça, n'est-ce pas? Mais chacun doit être véritablement engagé au service de Dieu. Je pense à ce voyageur qui fit un jour une découverte singulière dans un petit village où, depuis le XVIe siècle, les mêmes traditions se sont maintenues. Il était arrivé le soir, alors que la cloche de l'église sonnait. La chapelle était sombre et noire. Et à sa grande surprise, il vit le long des ruelles les fidèles qui avançaient vers la chapelle portant chacun une petite lampe en bronze d'un modèle très ancien. Il se mêle au flot des arrivants et il demande pourquoi chacun avait sa lampe. Et l'un des villageois lui répond « Mais nous n'avons aucun autre moyen pour éclairer notre chapelle. » En 1550, lorsqu'elle fut bâtie, le seigneur du village décida que chacun apporterait sa lampe. Les lampes appartiennent à l'église et sont prêtées à chaque fidèle. Nous les allumons à une torche en entrant, et c'est pour cela que notre église s'appelle l'église des lampes allumées. Chacun s'y rend pour faire qu'elle soit plus lumineuse, car il sait que s'il reste chez lui, la chapelle sera plus sombre et le service plus triste. Le pasteur doit avoir devant lui toutes les lampes allumées. Chaque place obscure signifie un absent, un malade ou un deuil. Nous sommes tous responsables de la luminosité de notre église locale. Encore une fois, Spurgeon qui dit ceci, « Il n'y a pas une araignée sur le mur du roi qui n'ait une tâche à accomplir. Il n'y a pas une ortie dans le coin de la cour de l'église qui n'ait son but. Et je n'accepterai jamais que Dieu ait créé un homme, particulièrement un chrétien, pour être un vide, une nullité. Il vous a créé dans un but, découvrez ce que c'est, découvrez votre niche et remplissez-la, mes amis. » Vous savez que dans le domaine de la médecine, on se rend compte plus en avance que des éléments de notre corps pour lesquels on n'avait aucun sens, hein, qui nous semblait n'avoir aucun but dans le passé, s'avère en réalité très important. Pendant longtemps, on vous ôtait les amygdales dans l'allégresse, hein. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ces problèmes qu'on peut avoir? Là, on coupait, on taillait, hein, les chirurgiens s'en donnaient à cœur joie, jusqu'au jour où on a commencé à réaliser l'importance des amygdales. Et maintenant, on est très, très, très précautionneux avant d'ôter les amygdales. Et je suis persuadé que même notre appendice, hein, qui nous fait parfois souffrir, hein, il a son utilité à quelque part. Moi-même, on m'a tranché dans une intervention chirurgicale il y a 24 ans maintenant, une partie qu'on n'aurait jamais dû ôter. Et c'est quelques années plus tard qu'un spécialiste a dit « Mais on a fait une bêtise et je dois maintenant prendre un médicament jusqu'à la fin de mes jours pour compenser le manque lié au travail de ce chirurgien, mais aussi à l'ignorance d'une époque heureusement maintenant révolue. » Donc souvenons-nous, chacun, ne disons pas c'est beau, c'est vrai, c'est juste, mais disons au Seigneur, dans cette fin d'après-midi, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour moi, alors j'aimerais avant que nous terminions quand même aborder un deuxième point, même si nous n'allons pas spécialement au bout, on continuera ce soir. Parce que à partir de là, si nous nous sentons concernés, Et nous devons nous sentir concernés. Nous avons été sauvés pour servir, n'est-ce pas? Se pose une question. Combien est-ce qu'il y a de dons? Combien est-ce qu'il y a de dons? Ça, c'est très important. Alors, on fait le compte, on ouvre sa Bible et vous avez des livres évangéliques. J'en ai un d'ailleurs dans ma bibliothèque qui dit, vraiment, texto ceci, n'est-ce pas? De la même manière qu'il y a 9 fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22, il y a 9 dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12. C'est un livre évangélique. Nous avons dit, pas 9 fruits de l'Esprit, LE fruit de l'Esprit. C'est pas la même chose. Le caractère de Jésus-Christ ne se découpe pas en rondelles. Dieu n'est pas un épicier qui donne un peu plus d'amour ici, un petit peu plus de patience là. Non. C'est la personne de Jésus-Christ qui doit croître, se développer dans la vie, n'est-ce pas? LE fruit. Et c'est un fruit. Parce que c'est la vie d'en haut qui m'est communiquée, qui se développe, n'est-ce pas? Et de la même manière, il n'y a pas 9 dons de l'Esprit. Si nous regardons simplement dans les listes qui figurent, dans les grands textes que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, nous nous rendrons compte qu'il y a en tout cas dans ces textes, tout d'abord, dans ces textes, une vingtaine de dons différents. Je dis bien dans ces textes, une vingtaine de dons différents. Alors une autre question se pose. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu a pour toute son Église, pour le travail, pour le témoignage de toute son Église dans le monde au travers de l'histoire, uniquement une vingtaine de dons? Est-ce que c'est là ce qu'on appelle une liste exhaustive, c'est-à-dire tout à fait complète, avec un point final après le 19e ou le 20e nom? Alors là, j'aimerais répondre très très clairement, sans la moindre ambiguïté, que je ne crois pas un seul instant que ces listes représentent, ou que cette liste dans sa totalité représente l'ensemble, l'entièreté, donc la totalité des dons spirituels. C'est une liste non limitative. C'est une liste indicative. C'est une liste représentative des richesses infiniment variées de Dieu. Alors vous me dites, eh bien frère, justifiez cela. Alors nous allons simplement, très rapidement, le justifier. Tout d'abord, disons qu'il y a quantité de dons spirituels qui ont été et sont exercés dans l'Église aujourd'hui et qui ne figurent pas dans les listes du Nouveau Testament. Heureusement d'ailleurs pour ceux qui les exercent. Elles figurent ailleurs. Elles figurent notamment dans l'Ancien Testament. Et nous n'avons pas le droit d'établir des murs étanches entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a dans l'Ancien Testament des exercices de dons spirituels qui ne correspondent pas à la vie de l'Église, mais à la vie du peuple de Dieu, dans l'Ancienne Alliance. Et des dons qui sont véritablement présentés comme dons spirituels. Savez-vous comment Dieu, dans sa bienveillance, m'a montré d'une manière très claire quel serait mon ministère, quel don j'exercerais? Ce n'est pas par un texte du Nouveau Testament, mais c'est par un texte de l'Ancien Testament. Non pas que j'ai reçu comme une révélation, comme un coup de foudre descendant subitement du haut du ciel, non pas que j'ai reçu non plus en fermant ma Bible et en l'ouvrant comme ça, n'est-ce pas? Pas du tout. Dans ma méditation quotidienne, je suis tombé un matin, dans la suite du texte, simplement sur le texte d'Exode 35, versets 30 à 35, Exode 35, versets 30 à 35, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Hein, » Il l'a rempli de l'esprit de Dieu. Hein. Et il est dit au verset 34, « Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. » C'est dans le texte. Il l'a rempli de l'esprit, etc. Et il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Et ce matin-là, de manière très claire, Dieu m'a dit, ça c'est pour toi. Très clair. C'était clair. C'était dans l'Ancien Testament. Et vous remarquez que le langage est un langage, d'ailleurs, étrangement ressemblant à celui du Nouveau Testament. Et ce don était fait à Betsaléel, fils d'Uri. Pourquoi ? Pour former des personnes dans le domaine de l'orfèvrerie, de tous les arts nécessaires à la confection du tabernacle, et pour faire un certain nombre de réalisations lui-même. Il existe donc, notamment aussi, un certain nombre de dons artistiques, de dons musicaux, de dons poétiques, que Dieu fait à l'Église. Je ne parle pas de la petite musiquette si facile de personnes qui ne savent pas se mettre à genoux pour demander au Seigneur vraiment de les guider et qui devraient commencer par rendre un bon témoignage en lavant et en essuyant la vaisselle à la maison. Je ne parle pas de ça. Parce qu'on peut se figurer avoir des dons pour jouer la petite vedette qui gratte son instrument. Je ne parle pas de notre frère. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je parle de ces dons qui, au travers de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, ont été porteurs de fruits extraordinaires. Une amie Carmichael, cette missionnaire en Inde, qui a été utilisée par Dieu pour le salut de milliers et de milliers de garçons et filles prostituées sacrées, et qui ensuite, par son art poétique et musical, par les livres qu'elle a écrits, alors qu'elle était atteinte, je crois, d'arthrite pendant des années, n'est-ce pas, a été une bénédiction pour le monde entier, mais c'était là des dons extraordinaires, n'est-ce pas. Un certain Ira Sankey, ce chanteur et soliste qui collaborait avec Moody, par exemple, et qui, lorsque les gens entendaient le message de ses chants, se convertissaient de manière extraordinaire. Un Ruben Sayens, prenez l'ancien cantique, mais si valable, sur les ailes de la foi, où vous avez 150, 160 ou 170 cantiques qui ont été composés par ce fondateur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui était à la fois un évangéliste, un organisateur, un prédicateur remarquable, mais aussi un poète, un chantre merveilleux du Seigneur à la gloire de Dieu. Et nous pourrions continuer avec un César Malan et tant d'autres, n'est-ce pas ? Or, vous n'avez pas trace de ces dons spirituels dans les listes qui sont indiquées. Mais vous n'avez pas le droit pour autant de considérer que ces dons n'existent pas, alors qu'ils figurent en toutes lettres ailleurs dans les Écritures. Vous ne croyez pas que David, en tant qu'homme de Dieu, avait un don poétique extraordinaire ? Mais les poèmes, ce qu'on appelle les acrostiches, etc. Vous savez, il y a une technique poétique dans les psaumes de David qui est extraordinaire. Dieu a inspiré cet homme de manière fantastique, de manière aussi à ce que ceux qui, ensuite, au sein du peuple hébreu, liraient les psaumes, aient envie de les apprendre par cœur, parce qu'ils ont été construits pour certains d'entre eux de manière absolument fantastique pour la mémorisation, par exemple, n'est-ce pas ? Et j'aimerais, en terminant, pour ne pas vous lasser, nous reviendrons ce soir encore, j'aimerais parler d'un don tout particulier qui ne figure pas dans ces listes, mais qui, j'en suis persuadé, est à l'œuvre dans la vie de plusieurs femmes et hommes de Dieu, du troisième, du quatrième, du cinquième et du sixième âge. Je veux parler d'un don notamment de prière. Vous savez, il existe un don de foi C'est ce qui nous permet de nous convertir à Jésus-Christ. Nous pouvons être sauvés parce que Dieu dépose en nous la confiance dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais il existe un autre don de foi. Cette foi qui a permis à Georges Müller de s'occuper de près de 10 000 orphelins pendant sa vie, alors que la sécurité sociale et tout le reste n'existaient pas dans 5 maisons à charge, etc., etc., n'est-ce pas ? Ça, c'est une autre forme de don de foi. De la même manière, mes bien-aimés, nous sommes tous, vous et moi, appelés à prier. Mais je suis convaincu qu'il existe aussi un don de la prière. Un don de la prière que, par exemple, Anne, dans le début de l'évangile selon Luc, exerçait nuit et jour dans le temple, dans son âge très avancé. Un don que Siméon le vieillard exerçait certainement lui aussi. Un don de prière qui est d'une manière toute particulière l'apanage des personnes âgées. Et là, j'en veux pour preuve toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Oh, vous savez, je bénis Dieu pour les vieillards que Dieu accorde à mon ministère et à notre vie de famille. Il y a autour de notre ministère et de notre vie de famille une équipe de personnes âgées en particulier dont certains d'entre eux prient tous les jours pour nous. Et je pourrais vous raconter l'histoire de grands réveils spirituels qui ont éclaté par la grâce et la souveraineté de Dieu, mais aussi parce que Dieu avait fait don de prière d'une manière toute spéciale, à des vieillards alités, impotents, qui ne pouvaient plus quitter les murs de leur chambre dans lesquels ils auraient pu être emprisonnés, mais ils parcouraient le monde entier dans la prière. Et ils priaient pour un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de situations, pour leur ville, pour leurs autorités. Je pense au réveil des Nouvelles Hébrides et à tant d'autres réveils, aux personnes qui priaient pour l'évangéliste Moody lorsqu'il évangélisait certaines grandes villes. Et quand le souffle du réveil arrivait dans ces cités, il y avait des vieillards impotents qui avaient prié parfois pendant des années. Je pense à la manière dont Opération Mobilisation Internationale est née. Parce que des vieilles dames priaient en voyant des jeunes, si je me souviens bien, qui sortaient d'une école. Et parmi ces jeunes, il y avait un certain Georges Fervert, le fondateur d'Opération Mobilisation. Il y a trop de preuves dans l'histoire de l'Église pour que nous ne croyions pas que Dieu fait ce don de la prière, en particulier à ceux et celles du troisième âge et au-delà, auxquels le diable souffle avec une perfidie et une mauvaise haleine terrifiante. Qu'est-ce que vous faites encore sur la terre? Vous n'êtes plus bon à rien. Combien de fois ai-je entendu des vieillards dans l'église locale, dans les visites personnelles, me dire « Mes frères, moi, je n'attends qu'une chose, c'est de repartir là où je ne sers plus à rien. Je suis devenu un fardeau pour l'église locale. On doit venir me chercher, on doit venir m'entourer, on doit venir me visiter, on doit... » Et combien de fois ai-je dû répondre, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez reçu le plus beau ministère, un ministère absolument stratégique, puisque Dieu a permis que vous n'ayez plus les forces du passé, que vous n'ayez plus les capacités du passé, que vous n'ayez plus la mémoire du passé, que vous ne puissiez plus utiliser vos mains et vos organes comme vous les utilisiez dans le passé. Dieu le sait, mais il vous a donné quelque chose d'autre. Il vous a donné la possibilité de prier. Alors priez. Au lieu de passer votre temps à user votre regard déjà usé continuellement au pied d'une télévision offerte par des neveux et nièces qui voulaient remplir votre temps, passez plus de temps à prier. Mes amis, une des raisons pour l'Église de Jésus-Christ dans nos pays industrialisés, pour lesquelles l'Église de Jésus-Christ dans nos pays industrialisés est en mauvaise santé, c'est que nous méprisons la vieillesse. Nous considérons trop facilement que c'est un fardeau inutile. Ce qui se passe dans le monde, c'est infiltré dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons donner à la vieillesse la place qui lui revient. Et je vais vous dire une chose. Nous, les jeunes, bon, je frise les 50 ans, mais je me classe dans les jeunes. Hein. Nous, les jeunes, et en particulier les jeunes qui jouent d'un instrument, ne méprisons pas la vieillesse. Parce que nous, les jeunes, quand nous aurons 70 ou 80 ans, j'espère que le Seigneur sera revenu avant, et que nous aurons des problèmes avec nos oreilles, avec notre tête, nous risquons de pester contre les jeunes qui useront du décibel sans aucun respect pour notre âge. Est-ce que nous nous comprenons? Nous devons nous dire que nous serons, pour un certain nombre d'entre nous, un jour, ce que les personnes âgées sont aujourd'hui. Et si nous manquons de compassion, tout en étant disciples de Christ vis-à-vis des plus âgés, nous aurons affaire à un manque de compassion quand à notre tour, nous aurons atteint un certain âge. Et cela, je le dis solennellement, parce que c'est pour moi une souffrance de voir la manière dont aujourd'hui, en prétendant être spirituel et en hurlant des soi-disant concerts de louanges, on est capable de faire du mal et de la peine à des croyants plus âgés qui ont parfois un ministère extraordinaire, mais un ministère caché. Je n'hésite pas à le dire et je souhaite que cela soit dit plus loin. Et j'aimerais simplement, en terminant, vous donner une illustration. Je l'ai sous les yeux. Vous avez sans doute entendu parler de ce pionnier de la chirurgie de la main lépreuse, de la main griffée, le docteur Paul Brand. Nous avons en français maintenant 5 ou 6 livres qui parlent ou de lui ou de cet hôpital de Vellore aux Indes, fondé par la femme médecin missionnaire, le docteur Ida Scudder, qui était une des pionnières de la mission moderne en Inde, bien sûr après Carré et d'autres. Et ce docteur Paul Brand a été un missionnaire remarquable, notamment comme pionnier de la chirurgie de la lèpre. C'est un vieillard maintenant. Et il a écrit dans un de ses livres absolument remarquables publiés par la Ligue pour la lecture de la Bible, notamment « À son image », c'est le premier de 2 ouvrages remarquables, il écrit ceci, écoutez. « Ma grand-mère, grand-maman Harris, avait 80 ans quand je fis sa connaissance. Et elle vécut jusqu'à l'âge de 94 ans. Je ne l'ai jamais vue marcher sans aide. Sa santé l'obligeait soit à garder le lit, soit à rester dans son fauteuil, dans sa chambre à l'aspect suranné, avec ses rideaux de dentelle ancienne et ses meubles sombres de style victorien. Ça se passe en Angleterre. Ma sœur et moi passions dans cette chambre 1 heure environ chaque jour. De descendance huguenote, grand-mère nous faisait lire pour elle la Bible en français. C'était aussi pour nous une façon de pratiquer cette langue, tout en apprenant à connaître la Bible, en l'écoutant commenter le passage que nous venions de lire. Grand-mère était voûtée, toute ridée, et elle souffrait de terribles maux de tête. Elle riait rarement, ne comprenait jamais nos plaisanteries, mais sa joie tranquille et sa paix étaient si communicatives que même les enfants turbulents que nous étions n'y étaient pas insensibles. Nous ne nous lassions jamais des visites quotidiennes que nous lui faisions dans sa chambre. Elle rayonnait l'amour. Lorsque grand-mère n'arrivait pas à s'endormir, elle restait parfois tranquillement éveillée toute une partie de la nuit, récitant des chapitres entiers des Écritures qu'elle avait emmagasinés dans sa mémoire et priant pour ses 11 enfants et ses 10 de petits-enfants. Mes tantes couchaient à tour de rôle dans sa chambre et bien souvent au milieu de la nuit, grand-mère appelait soudain, demandant qu'on apporte du papier, une plume et qu'on inscrive ce qu'elle avait à dire. Elle disait alors par exemple ceci. « Oh, je sens que le pasteur Smith de Ipswich a besoin qu'on l'aide en ce moment même. Veux-tu lui écrire ce que je te dirai ?» Elle dictait une lettre à ma tante et y faisait joindre un chèque. Quelques jours plus tard, quand le courrier apportait la réponse, grand-mère rayonnait de joie. Invariablement, la lettre exprimait une surprise totale. Comment se faisait-il qu'elle ait pu connaître le moment précis et le montant de la somme nécessaire ? Son rire éclatait alors frais et juvénile, dans un transport de joie enfantine. Nous autres enfants restions stupéfaits devant cette conspiration intime du Saint-Esprit avec grand-mère. Alors il ajoute, et ça c'est le médecin qui parle, « Dans le corps de Christ, je me la représente comme un nerf du système nerveux sympathique, un détecteur à qui Dieu avait confié la responsabilité de percevoir sa volonté jour après jour. Le pasteur Smith avait fait connaître à la tête, c'est-à-dire à Christ, par ses supplications, ses besoins immédiats et pressants. Grand-mère avait entendu la supplique du pasteur Smith, transmise depuis la tête, et elle avait répondu en lui envoyant ce dont il avait besoin. » Alors maintenant, vous pourriez dire, mais attention, ça sent une espèce de mysticisme dangereux où on est branché, on ne sait pas trop à quoi. Mais attendez la suite. Durant toute sa vie, grand-mère s'était préparée à ce rôle. Dans sa jeunesse, elle avait eu la beauté physique et une grande énergie. Pendant toutes ces années bien remplies où elle avait élevé ses 11 enfants, elle avait pris le temps de connaître Dieu malgré les exigences permanentes de sa tâche de mère de famille. Elle avait imprégné son esprit de la parole de Dieu. C'était des chapitres entiers du Nouveau Testament ainsi que la totalité des psaumes qu'elle avait ainsi emmagasinés dans sa mémoire. Plus tard, lorsqu'elle fut devenue âgée et presque impotente, Dieu avait fait d'elle le canal de sa grâce. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, mon attachement pour la Bible est pour une bonne part le résultat de sa consécration à Dieu. Elle ne pouvait plus guère faire autre chose qu'écouter l'Esprit, le conseiller, mais sa fidélité n'a jamais cessé de porter du fruit. Puis il y a une petite note en bas de page. Grand-mère ne dédaignait pas d'utiliser les motivations matérielles de ses petits-enfants. Sachant bien que tout ce que l'on confie à la mémoire d'un enfant dure toute sa vie, elle récompensait la récitation d'un chapitre de l'Écriture par une belle pièce d'argent toute neuve. Ses demi-couronnes et ses shillings étaient pour nous une petite fortune. Aujourd'hui encore, presque tous les chapitres de la Bible que j'ai conservés entiers en mémoire sont précisément ceux pour lesquels grand-mère m'a donné de l'argent. Voyez comment le spirituel rejoint le matériel. Voilà un exemple. Un exemple, voyez, tellement percutant, tellement pratique, d'un don parmi d'autres, celui de la prière pour le troisième âge. Alors ce soir, dans notre troisième rencontre, nous verrons encore un ou deux autres grands principes. Voyez, nous développons des grands principes, des grands axes qui courent le long des dons spirituels. Et puis demain matin, dans notre conclusion, nous verrons comment discerner les dons spirituels pour pouvoir les exercer.